Il est
12h15. RFJ Info.
Le journal de Mathieu Schaffner.
Bonjour, de la canne à sucre ou des céréales dans votre damascine, c'est la solution trouvée par l'interprofession pour faire face à la mauvaise récolte qui s'annonce. La Confédération vient de délivrer une autorisation spéciale. La lutte contre le coronavirus passe aussi par l'impression 3D. Une entreprise jurassienne se lance bénévolement, elle fabrique des protections complémentaires pour les masques. Il est le tout premier directeur du théâtre du Jura. Robert Sandeau est entré en fonction aujourd'hui. Le Neuchâtelois doit faire face à la crise et préparer l'ouverture de l'institution. Nous le recevons dans ce journal. Le soleil reste, lui, le roi du ciel. Il va poursuivre son règne ces prochains jours. Quelques nuages viendront l'embêter demain et vendredi. Pas de quoi refroidir le mercure. La damascine fait donc grise mine, mais les producteurs réagissent. Le gel de ces derniers jours va déboucher sur une très mauvaise récolte dans le Jura. Qu'à cela ne tienne, l'interprofession tient sa solution. Les producteurs de la célèbre eau-de-vie viennent d'obtenir une autorisation spéciale de la Confédération. Cette année, ils pourront exceptionnellement déroger au cahier des charges de l'AOP, ceci pour maintenir la production. Une solution d'urgence qui se justifie dans le contexte actuel. Le président de l'interprofession de la damascine, AOP à l'impéré.
Après 2019, qui était déjà pas terrible, 2020 s'annonce catastrophique, hein, avec les gels de la semaine dernière et puis cette semaine. Et puis effectivement, on va avoir des pénuries de damascine. Donc l'interprofession a fait une demande auprès de l'Office fédéral de l'agriculture pour savoir s'il n'était pas possible de couper un petit peu cette damascine avec un alcool dénaturé. Et puis on a obtenu une autorisation pour ça, c'est-à-dire qu'on pourra couper cette damascine avec au maximum 20% d'alcool de bouche dénaturé. Donc c'est des alcools qui proviennent de canne à sucre ou de céréales, pour autant que le facteur organoleptique reste perceptible. Ça veut dire que le produit fini doit toujours ressembler à une damascine, bien sûr.
Les consommateurs ne devraient donc pas ressentir de différence flagrante, mais l'interprofession s'attend tout de même à un millésime 2020 de moins bonne qualité. Les imprimantes 3D peuvent être utiles dans la lutte contre le coronavirus. Une entreprise jurassienne s'est lancée bénévolement dans la conception de visières de protection complémentaires aux masques. La demande est très forte, mais à quoi servent ces objets? Le directeur de SwissKH, basé à Delémont, Brian Gosparini.
Ces visières de protection, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne sont pas homologuées et pas homologables. L'idée, c'est de protéger, on va dire, les personnes des projections directes. Donc sur les muqueuses, les yeux, le nez et la bouche.
Et ces visières s'adressent à qui exactement?
Plutôt au personnel soignant. Donc on est actuellement en contact avec des hôpitaux, par exemple des pharmacies, et pourrait aussi très bien aller pour des personnes qui sont derrière des caisses dans des magasins ou des gens en fait qui sont sujets à rencontrer d'autres personnes durant la journée.
800 pièces ont déjà été commandées, si bien que le jeune entrepreneur n'arrive pas à suivre la cadence. Le CEFLAB à Moutiers lui apporte une précieuse aide, mais aussi des privés qui possèdent leur propre imprimante 3D. C'est le cas du prévôtois Nicolas Chiladakis. Il a installé son propre atelier de production au milieu de son salon.
La première chose, c'est que c'est un manque évident de masques. Il y a vraiment une immense demande à ce niveau-là. Et puis, je suis chez moi, j'ai rien à faire parce que chômage technique, confinement. Donc, l'impression 3D, c'est un domaine qui est open source, c'est-à-dire que c'est l'entraide entre utilisateurs qui fait la force de la connaissance. Alors, c'est totalement naturel qu'avec le plastique que j'ai ici à la maison, que je me mette à imprimer des visières. Après, c'est clair que plus on est, plus vite la quantité sera atteinte.
Un dossier réalisé par Olivier Zano. Vous retrouvez tous les détails sur notre site internet rfj.ch. L'industrie pharmaceutique est aussi mobilisée dans la lutte contre le Covid-19. Elle concentre ses recherches sur des médicaments déjà utilisés contre le sida et Ebola. Selon un expert, un médicament efficace pourrait être mis sur le marché d'ici un an, soit avant un vaccin. Et la crise impacte bien entendu le monde entier. Un risque de pénurie alimentaire existe sur le marché mondial. C'est ce qu'affirment aujourd'hui l'ONU et l'Organisation mondiale de la santé notamment. Pour elle, les incertitudes liées à la disponibilité de nourriture peuvent déclencher une vague de restrictions à l'exportation. Le coronavirus qui continue de se propager partout sur la planète, la maladie a fait un nombre record de victimes hier aux États-Unis avec 865 morts en 24 heures. En Suisse, le Conseil fédéral tient une nouvelle nouvelle conférence de presse cet après-midi. Et face à la pandémie, la plupart des gouvernements européens ont voté des mesures d'exception. Ces mesures sont limitées dans le temps. Ce n'est pas le cas en Hongrie, où une loi votée par le parti nationaliste du Premier ministre Viktor Orban est entrée en vigueur hier. Elle prolonge indéfiniment l'état d'urgence sanitaire. Viktor Orban est soupçonné de profiter de la crise sanitaire pour prendre les pleins pouvoirs. À Budapest, c'est une correspondance de Florence Labruyère.
Viktor Orban peut gouverner indéfiniment par décret, suspendre n'importe quelle loi et reporter les élections. L'état d'urgence s'achèvera quand il le décidera. Le gouvernement a besoin d'agir très vite pour lutter contre l'épidémie, a justifié Viktor Orban, qui a promis aux députés « je vous rendrai le pouvoir dès que vous le demanderez ». Mais l'opposition n'y croit pas. En 2015, le Premier ministre avait décrété un état d'urgence pour cause de crise migratoire. 5 ans plus tard, la crise est finie, mais les mesures d'exception, comme les perquisitions sans mandat, sont toujours en vigueur. L'opposition accuse Viktor Orban d'instaurer une dictature. Pour le directeur d'un institut de recherche proche du pouvoir, cette accusation n'a aucun sens. Selon lui, le Premier ministre n'a pas intérêt à se passer d'un parlement où son parti a la majorité des 2/3. Reste que les détracteurs d'Orban le soupçonnent de vouloir prolonger l'état d'urgence pour repousser les législatives prévues dans 2 ans. Des élections qu'il n'est pas sûr de gagner depuis la percée de l'opposition aux récentes municipales.
Le coronavirus ne l'empêche pas d'endosser son nouveau costume. Robert Sandeau est officiellement le premier directeur du Théâtre du Jura. Le metteur en scène et comédien neuchâtelois a pris ses fonctions aujourd'hui. Il a été nommé en décembre par le conseil de fondation. L'occasion de faire le point avec vous, Robert Sandeau, sur le travail qui vous attend. Bonjour.
Bonjour.
Entrée en fonction particulière, on l'imagine, avec cette pandémie. Elle a des répercussions concrètes sur votre nouvelle fonction ?
Oui et non. Non, on est un théâtre chanceux. On n'a encore rien de programmé. Donc nous, on n'a pas annulé, on n'a pas un public à qui on doit annoncer que des choses sont différentes. Donc on n'échappe à ça et en même temps, on existe déjà. Donc on peut réagir aussi un peu. Donc moi, je nous estime très chanceux, en fait. Je suis dans une situation exceptionnelle par rapport à tous mes collègues. Ça l'impacte quand même parce que, bien sûr, on se pose des questions sur la possibilité d'ouvrir dans les délais qu'on le souhaite, mais pour l'instant c'est encore le cas, mais forcément on perd un peu du temps en conjoncture, en conjecture, et en plein de détails de plan B, de plan C, de plan D, puis je crois que là il faut un peu se calmer, laisser passer la crise et puis se concentrer sur ce qui est sûr.
Et vous devez créer une dynamique de travail par écran interposé, c'est en quelque sorte ça votre premier défi ?
Oui, notamment sélectionner l'équipe, les collègues. Hein. On est en plein processus de la nomination du directeur administratif. Donc forcément, ça fait bizarre d'imaginer qu'on va faire les entretiens par vidéoconférence. Mais c'est l'air du temps qui impose ça. Et je crois qu'on n'est pas les plus à plaindre.
La première inquiétude du nouveau directeur du Théâtre du Jura aujourd'hui, c'est le chantier qui est au ralenti, coronavirus oblige ?
C'est pas une inquiétude. Moi, je suis plutôt soulagé qu'on préserve la santé de ses ouvriers avant tout, ou qu'on leur permette de vivre cette crise peut-être en famille ou le mieux possible. Donc moi, ça c'est pas une inquiétude, ça. Moi j'ai de la chance en fait. On prend un train en marche. Cette histoire du Théâtre du Jura, elle est longue, elle a vécu plein de péripéties, en voilà une nouvelle, mais on fera avec. Moi je suis en train d'inventer. Alors ce qui est chouette, c'est que quand on est en train d'inventer, on peut encore intégrer tous les changements de dernière minute. Vous voyez, c'est pas comme si j'avais un plan tellement bien établi que tout s'écroule. On va s'adapter, on va faire avec ce qu'il y a, puis je crois que ça c'est aussi une mentalité très jurassienne, de dire qu'on s'adapte à tout, qu'on résiste, et puis qu'on invente avec les moyens qu'il y a sur le moment.
Alors cette nouvelle péripétie, comme vous l'appelez, ce coronavirus, est-ce qu'il est source d'inspiration pour vous en tant que premier directeur ?
Non, on ne peut pas s'inspirer du malheur, on ne peut pas s'inspirer de la douleur quand même, c'est forcément ça influence. Forcément le théâtre va se réveiller différemment après cette crise. Globalement. Mais de là dire qu'on s'y inspire, je crois que c'est pas le moment. Je crois que le moment, il est à la solidarité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça m'a poussé à une réflexion, de me dire, je disais que j'étais chanceux avec le Théâtre du Jura, donc comment faire profiter de cette chance autour de nous, aux autres artistes ou au public, et puis en même temps, de me dire aussi, mais le théâtre, ça je l'avoue vraiment, moi je le pense comme ça, le théâtre, actuellement, il est en berne. Mon métier, c'est retrouver des gens dans une salle. Mon métier, c'est communiquer en direct, en live, devant plein de gens. Donc, je ne vais pas m'inventer youtubeur en 2 secondes, quoi. C'est un autre métier. Et donc, on doit dire haut et fort que le théâtre est fragile, malgré ce qu'on pensait, et qu'actuellement, le théâtre, ou les arts de la scène en général, sont en berne, et que c'est grave, et qu'on se réjouit de vous retrouver tous plus tard.
Ouais, une ouverture. Mais ça veut pas dire que... Une ouverture du théâtre du Jura qui est prévue à l'automne de l'année prochaine, un an et demi pour modeler ce lieu-là, c'est pas un luxe, Robert Sandeau ?
Non, parce qu'il faut imaginer qu'il faut tout mettre sur pied, c'est-à-dire qu'il faut mettre sur pied une équipe entière. Cette équipe entière, elle va se mettre au travail, notamment faire de la médiation, c'est-à-dire des actions vers les gens pour expliquer ce que c'est la culture, leur donner envie de culture, faire en sorte que la culture enrichisse leur vie. Et ça, ça va se faire dès le 1er janvier 2021, puisqu'on fusionne avec Cours de Miracle, une organisation qui faisait déjà ça très bien. Donc, le Théâtre du Jura, il existe déjà maintenant. Il fait déjà des choses maintenant. Et c'est ça que je voulais dire avant, c'est que, somme toute, je suis quand même en train de réfléchir à comment le Théâtre du Jura, ces jours, va proposer prochainement une action vers le public et les artistes jurassiens liés à la période de Covid qu'on vit actuellement.
D'ailleurs, vous avez déjà eu des rencontres avec les acteurs culturels jurassiens. Vous avez dit vouloir créer un lieu de partage dédié à tous les arts de la scène, inscrire dans la vie locale ce théâtre du Jura. Qu'est-ce qu'il en ressort de ces premières rencontres ?
Ben, il en ressort que j'étais très touché. C'est très touché de voir des gens passionnés parler d'un théâtre, de parler de cette région qu'est le Jura, de comment elle leur importe et de cette grande spécificité qu'il y a. Et moi, je ne m'attendais pas à une telle décharge humaine. Une telle ferveur aussi, et ça regonfle à bloc, ça vous donne de la motivation, vous savez pourquoi vous vous battez. Ça remet l'église au milieu du village, quoi. Et ça, c'est chouette. Et puis, ces rencontres-là avec les artistes, j'ai pas pu toutes les faire, mais on va les faire dès qu'on pourra de nouveau se retrouver. Elles préparent, en fait, une grande rencontre avec le public. C'est encore ça qui est le plus important. C'est d'aller à la rencontre de ce public-là et de faire une fois une rencontre avec les gens pour savoir de quoi ils ont soif, ce qu'ils ont envie de voir dans ce théâtre-là. Ça veut pas dire que je mettrai pas ma patte. Mais on est le théâtre d'une région, on est un service public, donc du coup, il faut qu'on soit à l'écoute, en communion avec cette région. Je veux bien amener des choses nouvelles, mais il faut que je les amène à des gens qui ont envie de les recevoir. Ça ne sert à rien que j'impose quelque chose de l'extérieur.
Robert Sandeau, directeur du théâtre du Jura, 1er avril, qui est donc synonyme d'entrée en fonction pour vous. Merci d'avoir été en direct. Belle journée, bon travail à vous.
Mais bonne journée à vous aussi et courage. Merci de maintenir la formation à flot dans ces temps troublés. Vous êtes merveilleux.
Et puis, autre entrée en fonction aujourd'hui sur la scène nationale, cette fois-ci, celle du nouveau patron des CFF, le fribourgeois Vincent Ducrot, qui en a pris les commandes aujourd'hui. L'homme se dit prêt à relever le défi dans un premier temps de la crise du coronavirus et du redémarrage. Les CFF qui ont réduit de 25% le nombre de trains voyageurs, ils estiment à 80% le nombre de passagers en moins. Vincent Ducrot.
Situation de crise égale management de crise, on est très très bien prêt, on est très bien organisé, il y a toute une structure autour de moi pour gérer cette situation spéciale et je me réjouis avec toute cette équipe d'avoir cette phase de stabilisation qu'on va avoir dans les prochaines semaines et puis de faire redémarrer la machine en même temps que l'économie devra repartir. On attend en fait de nos autorités les règles du jeu, on va s'y calquer, on a juste besoin d'un tout petit peu plus de temps d'anticipation parce que redémarrer un système de la complexité de celui des CFF avec une production réduite de 25%, ce n'est pas une mince affaire et ça va demander beaucoup d'énergie, ça va demander aussi beaucoup de travail des équipes qui sont déjà en train de préparer ces scénarios et on va les accompagner dans les prochains temps.
Plus de 3 millions de personnes sont titulaires d'un abonnement des CFF en Suisse, alors auront-elles droit à une compensation en raison de la forte réduction du trafic ? Vincent Ducrot.
Il y a des discussions qui ont lieu avec les autorités, notamment l'Office fédéral des transports, le département de Mme Somaruga, en vue de trouver une solution. On s'est donné en fait encore quelques jours, on a plusieurs variantes qui sont aujourd'hui en cours d'examen, et lorsqu'une décision aura été prise, c'est une décision politique en premier lieu, elle vous sera communiquée.
Vincent Ducrot, le nouveau patron des CFF, il évoquera sa vision stratégique dans son jour. La ponctualité sera l'une de ses priorités.
Vous écoutez RFJ, il est 12h29.
Sport.
Le coronavirus l'a empêché d'avoir la fin de carrière qu'il espérait. Julien Vauclair a rangé canne et patin il y a tout juste un mois. Le hockeyeur de Courtemèche a disputé son tout dernier match officiel à huis clos le 29 février. C'était lors du derby de National League Lugano-Ambri. À 40 ans, le Jurassien tire un trait sur une riche carrière, une carrière entamée au HC Ajoie qui s'est presque exclusivement poursuivie à Lugano avec deux titres de champion de Suisse à la clé, mais aussi avec l'équipe nationale au cours de 11 championnats du monde et 3 Jeux olympiques. Julien Vauclair.
Sans aucun doute, ça restera les deux titres gagnés avec Lugano et puis bien sûr la médaille d'argent avec l'équipe de Suisse. C'est vraiment quelque chose de très spécial, surtout que les deux titres que j'ai gagnés avec Lugano, on est passé par des moments quand même spéciaux avec notre cousin Ambri Piotta, donc je pense que ça aussi, ça rajoute un petit plus à ces deux titres. Je pense aussi que ce soit personnellement, mais aussi pour pas mal de nos fans, ces deux titres ont vraiment quelque chose de spécial. Donc pour moi, c'est vraiment fantastique d'avoir fait partie de cette équipe.
Et puis vous le dites, ce titre de vice-champion du monde avec l'équipe de Suisse en 2013, sur le moment, forcément une petite déception, mais clairement à la fin de la carrière, c'est un haut fait. On est très fiers du parcours accompli.
Oui, exactement. Je pense que le sentiment était quand même assez bizarre parce qu'on sort d'un match avec une défaite et puis c'est dur justement de regarder le côté positif de cette médaille d'argent. Mais je crois qu'après quelques heures, quelques jours, avec le retour en Suisse, on se rend quand même compte de l'exploit qu'on avait accompli à ce moment-là.
Vous avez eu la chance aussi de prendre part à 3 Jeux olympiques. Ça, ce sont des événements clairement à part dans la carrière d'un sportif?
Oui, alors bien sûr, les Jeux olympiques, ça reste toujours quelque chose de très spécial. Et puis, que ce soit de jouer des matchs, mais aussi le fait de vivre dans cette ambiance olympique. Le petit côté négatif de ces Jeux olympiques, c'est qu'on n'a pas vraiment obtenu les résultats auxquels on voulait. Et puis, donc, on est un peu divisé à ce niveau-là.
Julien Vauclair qui évoquera dans notre édition de 18h son périple outre-Atlantique, ses souvenirs du HC Ajoie, sans oublier un précieux conseil aux jeunes hockeyeurs. Et puis on poursuit notre série consacrée au rituel des sportifs d'élite après l'éthique de Philippe Michael DeVos hier. Place aux routines de Coralie Varré aujourd'hui, l'attaquante du volleyball Franche-Montagne a ses habitudes avant un match. D'ailleurs, comme la majeure partie de ses coéquipières, Coralie Varré.
Je sais qu'il y a une joueuse, Lara Gerber, qui met aussi les mêmes chaussettes. Mais les rituels, je pense aussi les Américaines, elles ont leurs rituels avec leur musique aussi. Moi, j'écoute aussi beaucoup de musique avant les matchs, en me préparant. Dans les vestiaires, on a aussi une Américaine, mais souvent un type de musique qui ne correspond pas aussi aux autres. Je pense qu'elles ont aussi leur rituel, s'échauffer bien, bien l'épaule aussi. Elles sont un peu folles sur ce coup-là.
C'est des choses qui peuvent amener à des blagues entre vous, voire des moqueries si l'une exagère trop ces rituels-là.
On m'a déjà fait la remarque. Bon, après, voilà, je trouve que c'est aussi très personnel et puis que chacun fait comme ce qu'il veut. Mais c'est vrai que des fois, on peut se faire 2-3 blagues là-dessus.
Coralie Varré répondait à Marceline Michon. Vous retrouvez l'interview complète sur rfj.ch, de même que les autres épisodes de cette série.
Mon quotidien change. Je témoigne.
Et vous en avez désormais pris l'habitude, on vous donne la parole chaque midi avant de se quitter, c'est le rituel de la pandémie. Qu'est-ce qui change dans votre quotidien depuis l'apparition de ce coronavirus? C'est un routier qui veut vous transmettre un petit message aujourd'hui.
Une bonne journée à tous. Là, moi j'y vais, il faut que je roule.
Et comme pour ce routier, bonne route à vous tous. Si vous avez aussi envie de nous faire part de votre quotidien en cette période de pandémie, n'hésitez pas à nous le raconter. C'est par WhatsApp que ça se passe et c'est au 079 812 20 20. Rendez-vous donc demain pour un nouveau témoignage. D'ici là, très belle journée.
Belle journée à vous aussi, Mathieu Schaffner. On passe à la météo et dans quelques instants, on va aussi vous parler de ce que mettent en place les commerçants de la région pour être toujours actifs. Des conditions calmes et bien ensoleillées avec de petits cumulus sur les crêtes, c'est ce que nous annonce Météo News pour la suite, avec des températures max de 8 degrés aux Franches-Montagnes et 11 en plaine. Demain, le temps sera assez ensoleillé avec toutefois des bancs nuageux parfois étendus et il y aura de fréquentes gelées à l'aube avec un mercure compris entre moins 1 et moins 3 degrés, puis au meilleur de la journée 9 à 1000 mètres et 13 en plaine.